Embarquement immédiat pour G comme Odéon. L'émission des Good Gone qui cause culture sur lyondemain.fr. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de G comme Odéon, une émission consacrée à tous les curieux, ceux qui souhaitent faire de belles rencontres et décident de laisser au vestiaire les esprits chagrins. Cette semaine, nous parlerons édition avec Sigolène Dubesset, directrice associée des éditions du Gros Caillou, mais aussi du travail remarquable que font les libraires sur notre territoire, partout en France et ailleurs dans le monde. Gaëlle nous parlera de l'exposition Shepard Ferret au Musée Guimet. Guillaume nous propose de découvrir l'univers musical et les textes politiques de Gontard, avec un point d'exclamation, le chanteur de Valence au masque de lapin. Thomas est venu accompagné de la prose d'Henri Michaud. Il nous lira un extrait de « Lointain intérieur ». On débute avec Sigolène Dubesset, des éditions du Gros Caillou. Nous avons évoqué cette jeune maison d'édition dynamique spécialisée dans le polar.
Cette maison d'édition du Gros Caillou a été créée il y a un peu plus d'un an, je crois, avec la vocation d'éditer du polar. C'est vraiment l'ADN de la maison. Vous aviez envie de mettre en valeur ce genre. Vient de se dérouler Quai du Polar. On est en plein dans l'actualité. C'était votre première participation, je crois, à ce festival. Est-ce que ça a été à la hauteur de vos ambitions?
Oui, on était très heureux parce que Arthur Roger, qui est un de nos auteurs, a pu dédicacer à l'Hôtel de Ville. Il a été invité par la librairie Un Petit Noir. Et pour nous, c'était une grande fierté parce qu'on avait un peu le sentiment d'entrer dans la cour des grands. Parce que Quai du Polar, c'est vraiment un événement qui est très prestigieux et très impressionnant.
Je crois que ça sera pas le seul événement cette année puisque vous allez également à Paris au Salon du Livre.
Oui, on va au Salon du Livre à Paris, donc c'est fin avril et cette fois-ci on emmène tous nos auteurs, donc Arthur Roger, Grégoire Godino et Yann Botrel. Pour nous c'est un peu un moment qui va être un peu exceptionnel parce que le Salon du Livre forcément il y a tous les éditeurs, toutes les grosses maisons d'édition qui sont là et donc c'est un peu un pari pour nous d'être présents du coup à ce festival.
Vous nous avez dit tout à l'heure pendant la conférence de presse que votre ambition est d'éditer une dizaine d'auteurs par an. Comment se passent déjà les lancements de ces premiers trois auteurs que vous avez mis sur le devant de la scène?
Très content des premiers résultats. Le dernier jour, qui est notre premier roman, qui est sorti le 5 octobre, a largement dépassé la barre des 1000 ventes. Ça peut paraître un peu anecdotique, mais pour une maison d'édition qui vient de se créer, c'est beaucoup, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de lecteurs qui nous font confiance, qu'on commence à être présents dans plus en plus de librairies. On essaie d'accompagner au mieux chaque lancement, et c'est aussi tout l'intérêt de cette maison d'édition, c'est qu'on veut vraiment être au plus près des auteurs, et vraiment garder cette relation très proche.
Parler de la relation avec les libraires. Le 15 avril, c'est la fête des libraires. Avez-vous des signatures de prévues?
Effectivement, oui, on a de nombreuses signatures qui sont prévues dans de nombreuses librairies. On a déjà fait Élysée Ouattara, on a fait deux sites Rebellecourt il y a très peu de temps avec Grégoire.
Ces signatures sont des toujours fort entre la rencontre finalement des auteurs avec un lectorat potentiel, parce que généralement dans les librairies, ils n'ont pas lu le livre encore.
Tout l'intérêt en fait justement d'aller dédicacer en librairie, c'est qu'on est porté par le libraire. C'est ça qui est vraiment important, parce que pour nous, le libraire, c'est vraiment presque la personne la plus importante pour la maison d'édition, puisque un libraire qui croit à un roman, il va vraiment le défendre, il va vraiment le proposer au lecteur. Et quand on va dans une librairie, en général, c'est que justement, on cherche le conseil d'un libraire. Et donc, c'est vrai que faire des dédicaces en librairie, ça nous permet de rencontrer des lecteurs et d'avoir un peu la protection, j'allais dire, du libraire qui va essayer de nous mettre en avant.
Aujourd'hui, créer une maison d'édition, que ce soit dans le polar ou dans d'autres genre, c'est toujours un défi entrepreneurial. Vous êtes quatre associés à vous être lancés dans cette aventure et je crois savoir que vous n'êtes pas du sérail.
Et non, on fait rien comme tout le monde. Donc effectivement, dans cette maison d'édition, on est tous en fait issus d'univers très différents. Alors pour ma part, moi j'ai travaillé aussi en librairie, mais c'est vrai que voilà, aucun de nous finalement n'avait travaillé dans le monde de l'édition, ce qui peut paraître un peu particulier, mais finalement c'est aussi une force. Je pense que parfois on fait des choses, on les tente sans se rendre compte à quel point ça peut être parfois un peu difficile, mais on a beaucoup d'ambition, on a vraiment envie que cette maison fonctionne. Du coup, il y a rien qui nous arrête.
Justement, rien ne vous arrête puisque vous nous avez dit 10 auteurs, il y en a une qui va arriver Et c'est la première femme que vous allez éditer. Est-ce que vous voulez bien nous en parler ?
Oui, il y a Claudie Overwald qui nous rejoint en fait avec son premier roman qui va sortir en juin. Et en fait, Claudie, elle a gagné notre concours d'écriture, donc un concours pour lequel on a reçu plus de 100 manuscrits. Et c'est vraiment le texte de Claudie qui a plu vraiment à tout le jury, tous les lecteurs à qui on l'a fait lire. Enfin, gros coup de cœur. Qui est encore plus émouvant dans cette histoire, c'est que Claudie, elle n'avait jamais envoyé de manuscrits à une maison d'édition. Donc c'est pour nous une grande fierté aussi d'avoir découvert son texte.
C'est toujours intéressant d'être un peu un défricheur ou une défricheuse. Et vous le disiez, il y a un comité de lecture, vous faites ça à plusieurs. Est-ce que c'est important, la force du collectif, quand on est une jeune maison d'édition ou une maison d'édition en général ?
Oui, tout à fait. Pour moi, c'est primordial dans la façon dont on a construit la maison. Voilà, on échange énormément, alors à la fois avec les auteurs, mais aussi nous en interne et effectivement avec notre comité de lecture, parce que les romans que nous on propose, ben on a envie qu'ils plaisent au maximum de lecteurs. Et du coup, l'idée c'est pas d'aller faire un roman tout seul dans son coin, effectivement, mais c'est vraiment voilà de partager, d'échanger. Donc tout est finalement autour d'un projet collectif.
On parlait également de la dimension esthétique du livre. L'objet livre est revenu en force. Il y a vraiment cette envie aussi de proposer des beaux livres.
Dans nos associés, il y a Émilie Beau, qui est la personne en fait, qui a vraiment créé la charte graphique de nos livres, qui est très reconnaissable. Du coup, si vous pouvez les avoir en main, on se rend bien compte qu'on les reconnaît tout de suite. Et pour nous, c'était important dans ce projet de faire les choses bien jusqu'au bout. Donc, on produit en France. On a vraiment choisi des papiers de qualité, une couverture de qualité. On a essayé de faire quelque chose, vraiment un bel objet, effectivement, parce qu'il y a le livre, il y a le récit, il y a les personnages, il y a l'auteur, mais il y a aussi finalement ce qui reste. On est très attaché aussi à cet objet livre.
Le choix du polar fait que vous allez peut-être être amené à suivre vos auteurs. On parlait tout à l'heure de la potentialité d'avoir un enquêteur ou une personnalité qui va revenir après chaque livre. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez avec certains de vos auteurs ?
Oui, parfaitement. C'est vrai que ces auteurs, on les a aussi choisis parce que, alors, on aimait leur texte, on aimait leur personnage et donc on n'exclut pas effectivement d'avoir un personnage qui revienne. C'est pas impossible notamment pour notre premier roman, Le Dernier Jour, parce que un des personnage a beaucoup plu au lecteur qui pourrait revenir et ça peut tout à fait faire partie effectivement de romans qu'on pourrait lancer à l'avenir.
Le deuxième livre que vous avez fait paraître a aussi une petite particularité, c'est qu'il ajoute de la musique avec Chanson Blanche. Est-ce que vous voulez bien nous parler justement de ce défi d'associer un livre à un univers musical ?
La Chanson Blanche, effectivement, elle a été écrite par un auteur qui s'appelle Grégoire Godino, mais qui n'est pas qu'auteur, qui est également musicien. Et dans le roman, il y a une chanson qui a une place très particulière et en fait Grégoire il a réellement composé la musique de cette chanson qui est disponible du coup sur toutes les plateformes depuis le 31 mars, et donc dans le livre en fait on a mis un QR code tout à la fin qui permet d'aller écouter cette chanson, et on trouvait que c'était, on en avait parlé avec Grégoire, on trouvait que c'était vraiment très intéressant finalement de construire un univers autour du livre. En plus cette chanson elle a vraiment une place importante dans le roman, donc ça avait tout son sens de créer finalement le lien entre la musique et le roman.
Merci beaucoup Sigolène, j'invite nos auditeurs à vous retrouver bien sûr sur les éditions du Gros Caillou, mais également à l'occasion de cette fête des libraires le 15 avril et dans de futures, bien sûr, signatures pour présenter vos auteurs. Merci.
Merci beaucoup. Et d'ailleurs, toutes nos signatures sont sur notre site internet. Dans la page actualité, vous pouvez retrouver toutes les dates et tous les lieux.
Merci beaucoup.
Dans le cadre de cet entretien, nous avons évoqué également la journée du samedi 15 avril. C'est la 25e édition de la fête de la librairie. Profitez-en pour pousser la porte de la librairie la plus proche de chez vous. Je suis certaine que vous ferez de belles rencontres. Plus d'informations sur la page www.syndicat-librairie.fr. Nous poursuivons avec toi Gaëlle et l'exposition Shepard Ferret au musée Guimet. Un événement dans ce lieu si particulier de notre ville en totale déshérence depuis 2007.
Exactement, et où il y avait eu la Biennale d'art contemporain.
Absolument.
On va remonter un petit peu le temps. En 2004, un certain Shepard Ferret remarque un discours de Barack Obama lors de la Convention démocrate et décide de le soutenir. Il réalise ainsi une première affiche, une interprétation d'un buste de Barack Obama avec la mention « Progress », suivie de la mention « Hope ». Succès immédiat, le bureau de campagne de Barack Obama lui commande alors une version officielle avec la mention « Change ». Finalisée le 31 janvier 2008, l'affiche est vendue avec succès sur Internet afin de soutenir le candidat. Le 22 février 2008, Barack Obama lui écrivait pour lui remercier. Le 4 novembre 2008, Barack Obama était élu président. Et en décembre 2008, Time Magazine choisissait pour sa couverture un portrait du nouveau président réalisé par l'artiste. Enfin, début 2009, la National Portrait Gallery de Washington achetait la version originale Hope et l'intégrait dans ses collections permanentes. Incroyable histoire, non ? Mais la carrière de Shepard Fairey, née en 1970, avait commencé dès 89 avec la création et le collage d'un autocollant mettant à l'honneur son fameux personnage, André the Giant. L'artiste allait ensuite créer des affiches sérigraphiées. C'est donc la plus grande exposition de cet artiste, Shepard Fairey, plus connu du grand public sous le nom de Obey, O-B-E-Y, que vous pouvez actuellement découvrir au musée Guimet. Organisée par Space Junk Lyon en partenariat avec la ville de Lyon, cette rétrospective s'intitule « 1001 Reasons to Disobey », soit « 1001 raisons de désobéir », « Disobey » faisant écho à « Obey », le nom de l'artiste. Le commissariat d'exposition est assuré par Jérôme Katz, fondateur depuis 2003 des centres d'art Space Junk à Grenoble, Lyon et Bayonne. Expert de l'art urbain, il est également directeur artistique du Street Art Fest Grenoble-Alpes et l'auteur des livres Street Art Mode d'emploi en 2013 et Street Art Le Guide en 2015, édité chez Flammarion. Pourquoi Obey ? En 1995, inspiré par le film Invasion Los Angeles des livres de John Carpenter, Shepard Fairey ajoute le slogan Obey tiré du film, soit Obéissez, qu'il inscrit sous le visage d'André the Giant, fameux personnage de son premier autocollant. Obéissez, désobéissez, l'œuvre de l'artiste est militante. Ses sérigraphies luttent contre toutes sortes d'oppressions et de manipulations. L'exposition retrace ses combats politiques, son engagement contre les injustices sociales et le réchauffement climatique, ainsi qu'une dénonciation de la discrimination raciale et des lobbies. Lobby entre autres abordé par le jeu de l'invective, exemple avec Corporate Violence for Sale, la violence d'entreprise à vendre, où Shepard Fairey questionne le spectateur en faisant appel à son esprit critique. L'artiste joue avec lettres et mots, cas du slogan de campagne présidentielle de Ronald Reagan en 1984, « It's morning in America ». Shepard Fairey ajoute juste un « U » faisant de « morning » le jour, un « mourning », un deuil. Les images de Shepard Fairey sont directement efficaces et impactantes. En pratiquant un art utilitariste et non pas que de pure contemplation, il se rapproche de la mouvance constructiviste soviétique. Le clin d'œil à Alexandre Tchenko, l'un des plus grands designers graphiques, est à ce titre plus qu'une citation. Shepard Fairey avait déjà proposé en 2004 une version stylisée d'un photomontage constructiviste de 1925 d'Alexandre Tchenko pour la pochette de l'album « Take Me Out » du groupe de rock Franz Ferdinand. Dans l'exposition, vous retrouverez cette citation constructiviste dans le graphisme et la typographie de l'œuvre « Say Yes Afternoon » datée de 2008. Autre source d'inspiration revendiquée par Shepard Fairey, les affiches slogans de Barbara Kruger qui semblent donner des ordres aux spectateurs. L'autrice d'injonctions comme « Don't be a jerk »,« Ne sois pas un abruti » ou de slogans tels que « You're not yourself »,« Vous n'êtes pas vous-même » est reprise par Shepard Fairey dans « Surveillance Red ». Pour Barbara Kruger, notre monde est un petit monde, mais pas si vous devez le nettoyer. Ainsi, Shepard Fairey, comme Barbara Kruger, alerte conjointement sur les travers de la surveillance constante de la société. Shepard Fairey reprend cette thématique en 2006 dans l'affiche « Big Brother is watching you » en écho au roman « 1984 » de George Orwell. Affiche qui sera reprise par l'éditeur Penguin Book pour la réédition en 2008 du roman. Dans « 1001 Reasons to Disobey », vous croiserez de nombreuses personnalités des sphères politiques, sociales et artistiques. Sans toutes les nommer, citons cependant l'œuvre intitulée « Radicals », composée de 4 portraits sur un même visuel. Elle met à l'honneur 4 personnages qui ont fait bouger les lignes. Albert Einstein, Andy Warhol, Rosa Parks et Martin Luther King. prévoyez une longue déambulation. Le parcours est vaste, 1000 œuvres, depuis les sérigraphies jusqu'aux œuvres sur métal, bois, t-shirt ou skateboard. La rétrospective aborde toutes les techniques de l'artiste et dresse un panorama de ses thématiques jusqu'à l'univers musical, punk, rock et rap. On termine par un slogan salutaire ? Make art, not war. L'exposition est à voir jusqu'à 9 juillet au musée Guimet. Plus d'informations sur spacejunk.tv.
Merci beaucoup Gaëlle.
Guillaume, tu nous proposes de découvrir Gontard. Gontard avec un point d'exclamation, un croisement entre un chanteur engagé, un lapin et Karl Marx. Il sort un nouvel album et c'est un événement sur la petite planète musique. Dis-nous en plus.
Oui, alors Gontard, effectivement, c'est un ovni musical. Comme tu l'as dit, il fait des concerts avec un masque de lapin. Mais c'est pas seulement ça, c'est un ovni musical parce que, en fait, je trouve qu'en France, on a peu de groupes politiques, en fait. Mais politiques au sens noble, qui écrivent des textes engagés, qui parlent de la société actuelle. Alors, je sais pas tout à fait exact, j'avais parlé d'un disque de Michel Clou, Backflip au-dessus du chaos, qui est vraiment dénonçait beaucoup de choses, ou plutôt décrivait un petit peu la société d'aujourd'hui. Mais Gontard, c'est vraiment particulier. Alors Gontard, c'est très compliqué parce que en 2019, il a sorti un album qui s'intitulait 2029. En 2023, il sort un album qui s'intitule 2032, qui est un peu la suite de
2029.
De 2029, donc voilà. Alors ce n'est pas de la dystopie, ça serait plutôt de l'Uchronie. Hein. Il part de choses réelles pour ensuite tisser sa toile dans ses textes. Alors, il chante pas vraiment. Alors si il chante, c'est plutôt du parler chanté. Et puis alors, c'est amusant parce que tu parlais de George Orwell. Moi, je l'appelle un peu le George Orwell de la Drôme, en fait. C'est un petit peu ça. ou alors le Barjavel des contreforts du Vercors, quoi. Parce qu'il fait beaucoup de ravages avec son parler chanté.
Il est incroyable.
Voilà, vraiment, c'est un artiste vraiment particulier. Alors cet album, il peut être un petit peu abscon, hein, voilà, parce que quand même c'est une sorte d'album concept.
Il est un peu rêche.
Voilà, où en fait on quitte Gontard sur Misère. Bon, je précise qu'il habite Romans sur Isère. Il appelle sa ville Gontard sur Misère. Et puis on est dans une société où peut-être pas la dictature, mais disons une société un peu trop policée. On est obligé de s'en aller sur une autre planète pour essayer de vivre autrement. Il y a un titre qui est sorti déjà, qui a été clippé, qui s'intitule, c'est le premier titre de l'album, Ce qui restera de nous. Alors on va pas écouter ce titre là parce qu'il est sur toutes les plateformes, donc ça serait trop facile, vous irez l'écouter vous-même, mais je vais quand même lire un petit
mettra la vidéo quand
on mettra la vidéo
bien.
Mais son parler chanté, avec le recul on peut se dire que la société de surveillance généralisée était à plein régime, mais des câbles étaient parfois arrachés à même le sol, les caméras défoncées, les intérimaires derrière leurs écrans aussi, puis tout d'un coup au printemps 2027, ça s'est un peu durci encore. Les gens sont devenus incontrôlables, les tentatives de démontage des systèmes de télécommunications se faisaient quotidiennes, l'armée est entrée dans le game, c'était terminé. Il n'y avait plus rien, comme dans les films ou dans les récits de nos grands-parents, on pouvait même plus baiser dans les coins ou piquer à la tire, il n'y avait plus rien. Alors, c'est très bizarre, hein, parce que moi, ces histoires de télécommunications, ça me fait penser un peu aux JO qui s'approchent et au phénomène des caméras qui vont vous scruter un petit peu d'une manière un peu étrange. Donc vraiment, c'est un album assez exceptionnel. Et puis, il faut bien comprendre que ses précédents disques, pareil, étaient très politiques. Il y avait des titres qu'on pourrait écouter malheureusement à la radio, ne passent peu ces titres-là. Et d'ailleurs, pourquoi je parle de ça ? Parce que sur son Instagram, c'est très très drôle. Nicolas Gontard, en fait, écrit « Si jamais un programmateur radio taquin et militant de la grande maison Radio France pouvait glisser dans les playlists de grève quelques-unes de mes chansonnettes, voici quelques idées de circonstances. » Et voilà, une litanie de titres. Mais en fait, c'est pas un jeu. C'est-à-dire que vraiment, ces titres sont très intéressants et décrivent la société d'aujourd'hui d'une manière assez violente, quoi. Donc, il y a un titre qui s'appelle « La main tiède de la violence », un autre qui s'appelle « Femme d'entretien »,« Homme perdu »,« Faillite »,« Noyé »,« Prolétaire »,« L'hôpital tue »,« Fin de concession »,« Intimidation »,« La France des épiciers », j'adore. Allez écouter « La France des épiciers », c'est formidable. « Sauvagerie »,« Tropicale ». Alors, tout ce que je viens d'énoncer, c'est pas dans le dernier album. Et donc, on va écouter un titre. C'est peut-être le titre le plus doux. Il y a des ballades quand même dans cet album. Et c'est des ballades, pour le coup, qui sont chantées. Donc, on va écouter « Juste quelques flocons qui tombent ».
« tristes quelques flocons qui tombent sur les dernières traces de pas. Depuis plusieurs jours, la ville est morte. Les seuls vivants, c'est toi et moi. Juste quelques flocons qui tombent tard dans une rue des marais. La rue est blanche, le blanc m'inonde. Tu es si douce à mon côté. Juste quelques flocons qui tombent. Je ne sais pas ce qui les a tués. Ils avaient si peur de leurs bombes. C'est autre chose qui est arrivé.
On vient d'écouter juste quelques flocons qui tombent, extrait de l'album de Gontard qui s'intitule 2032. Il sort le 21 avril, évidemment. 21 avril, il y a une raison à cela, vous le savez bien, 21 avril 2002. Enfin, je pense qu'il a pas, c'est pas un hasard. Et donc, dans le disque, il y a aussi une affiche électorale, élection 2032, faisons reset, votez pour moi, votez pour Gontard. Donc, faut écouter Gontard. C'est un album étonnant, ça s'écoute d'une traite. Je pense pas qu'on puisse trop extraire des chansons en fait, ou des titres, que vraiment ça raconte une histoire et c'est intéressant. Juste pour, quand même, pour terminer, vers la fin, il retourne à Gontard-sur-Misère pour faire Reset. Reset, alors Reset, jeu de mots, Reset en fait, d'accord. Donc on repart à zéro. Donc faut aller vraiment écouter Gontard. Je donne quelques petites dates de concert dans la région. Il sera le vendredi 28 avril en concert, je crois, gratuit au parvis de la salle Georges Brassens de Tournon-sur-Rhône, le 28 avril à 20h. Et puis il sera aussi le lendemain, le samedi 29 avril, au Café Le Passage de Romans-sur-Isère. Il faut aller écouter Gontard, c'est un artiste très attachant et très étonnant, et les concerts sont toujours très formidables. Il est entouré de sacrés bons musiciens et ça fait plaisir d'avoir des textes encore une fois politiques. La politique, tout est politique.
Ouais,
hein, ce que vous faites le matin, la façon dont vous vous lavez, c'est politique. Vous prenez votre café, c'est politique.
Absolument.
Parce que moi, on me dit souvent...
La façon dont on fait une émission
exactement,
culturelle
mais
comme
souvent,
la nôtre,
on me dit, mais non, mais tu penses trop à la politique, mais je suis désolé... Et puis par les temps qui courent, c'est ouais. Quand même important de savoir où on va, et malheureusement, on le sait trop où on va.
Écoutez Gontard.
Voilà, écoutez Gontard, avec un point d'exclamation, ça dépend, il l'a enlevé,
ouais,
il le remet, ça dépend.
C'est
voilà.
Vrai, ouais,
Gontard.
Merci.
Et j'ai oublié de dire que c'est sur le label Petrol Chips, et c'est distribué par Inouï Distribution. C'est important de le dire parce que c'est des distributions indépendantes.
Bien voilà. Sûr. Merci beaucoup, Guillaume. Thomas, cette semaine, après l'Irlandais Samuel Beckett, tu es venu accompagné d'un texte du franco-belge Henri Michaud. On t'écoute.
Et même trois textes.
Ah, trois textes. Alors on t'écoute.
Vision. Tout d'un coup, l'eau savonnée dans laquelle elle se lavait les mains Ce mieux a en cristaux tranchants, en dures aiguilles, et le sang, comme il sait faire, s'en alla, laissant la femme se débrouiller. Peu de temps après, comme il est courant en ce siècle obsédé de nettoyage, un homme arriva, lui aussi, avec l'intention de se laver, retroussa très haut ses manches, enduisit son bras d'eau, mousseuse, c'était à présent de la vraie mousse, posément, attentivement, mais insatisfait, il le rompit d'un coup sec sur le rebord de l'évier et se mit à en laver un autre plus long qui lui poussa aussitôt en remplacement du premier. C'était un bras adouci d'un duvet plus fourni, plus soyeux, mais l'ayant bien savonné presque amoureusement, soudain lui lançant un regard dur, soudain insatisfait, il le cassa. Ca ! Et un autre encore qui repoussa à sa place, il le cassa de même, et puis le suivant, et puis encore un, et puis encore un, il n'était jamais satisfait, et ainsi de suite jusqu'à 17, car dans mon épouvante, je comptais. Ensuite, il disparut avec un 18e, qu'il préféra ne pas laver et utiliser tel quel pour les besoins de la journée. L'animal mange serrure. Dans les couloirs de l'hôtel, je le rencontrai qui se promenait avec un petit animal mange serrure. Il posait le petit animal sur son coude, alors l'animal était content et mangeait la serrure. Puis il allait plus loin et l'animal était content et une autre serrure était mangée. Et ainsi plusieurs et ainsi de quantité. L'homme se promenait comme quelqu'un dont le chez-soi est devenu plus considérable. Dès qu'il poussait une porte, une nouvelle vie commençait pour lui. Mais le petit animal était si affamé de serrures que son maître devait bientôt ressortir à la recherche d'autres effractions, si bien qu'il trouvait peu de repos. Je ne voulais pas faire alliance avec cet homme. Je lui dis que moi, ce que je préférais dans la vie, c'était sortir. Il eut un regard blanc. Nous n'étions pas du même bord, voilà tout. Sans quoi j'aurais fait alliance avec lui. Il me plaisait sans me convenir. Et pour finir, on veut me voler mon nom. Tandis que je me rasais ce matin, étirant et soulevant un peu mes lèvres pour avoir une surface plus tendue, bien résistante au rasoir, qu'est-ce que je vois ? Trois dents en or ! Moi qui n'ai jamais été chez le dentiste. Haha ! Et pourquoi ? Pourquoi ? Pour me faire douter de moi, et ensuite me prendre mon nom de Barnabé. Ah, il tire ferme de l'autre côté, il tire ! Mais moi aussi je suis prêt, et je le retiens. Barnabé, dis-je doucement mais fermement. Alors, de leur côté, tous leurs efforts se trouvent réduits à néant.
Merci beaucoup, Thomas. Alors, qu'a présidé ce choix pour Henri Michaux ? Et pour ces trois textes, surtout.
Il n'y a jamais besoin de justifier Henri Michaux.
Je suis d'accord.
Parce que Henri Michaux, c'est Henri Michaux. donc c'est un auteur qui est fantastique, sa langue elle est vraiment savoureuse, elle est pétrie de simplicité et puis au milieu il y a des surprises radicales, il est capable de passer les travers humains à la moulinette de l'absurde et puis même inversement, puis au milieu de ça il y a la rationalité qui surgit de façon improbable des fois, enfin tout peut arriver dans Henri Michaux. Un texte que je vous ai pas lu mais qui était juste à côté commence par « Il se casse la jambe dans un urinoir ».
Bon. Et ben ça a été écrit en quelle année ?
Ça,
quels sont ces textes à peu près ?
C'est un auteur qui a traversé tout le XXe siècle. Mm-hmm. Hein, il est mort en 1984. Il est assez imprévisible. Il a eu des périodes très ésotériques. Mm-hmm. Là, c'est plutôt la période...
Surréaliste ?
Oui, tout à fait. Ouais. C'est un ouvrage qu'on trouve dans le même livre que Plume pour les intimes de Michaux. Plume qui est la grande œuvre connue de Michaux. Et ces textes sont tirés donc, d'un recueil très court qui s'appelle Lointaine intérieure.
Merci beaucoup, Thomas. Pour conclure notre émission et nos coups de cœur, c'est un métissage musical que je vous propose. Le quartet Marthe et la chanteuse sud-africaine Pilani Boubou présenteront Zing Nougo le 21 avril au Périscope à Lyon. Depuis sa création en 2017 par Florent Briquet et Alexis Moutsouris, le quartet Marthe
questionne l'itinérance des cultures dans le temps et l'espace. Ainsi, le lien invisible mais tellement fort qui lie les musiques africaines et le jazz. Suite à de nombreuses collaborations, Marthe met à nouveau le cap sur l'Afrique en 2023 et signe avec Zin Nougo une rencontre prometteuse avec deux artistes emblématiques du continent, la chanteuse sud-africaine Pilani Boubou et le percussionniste burkinabé Wenlavim Zamzong. On termine en musique, avec un extrait bien sûr.
All people are equal, but some people are more equal than others.
Asifani Singaband, Asifani Singaband, Asifani Singaband, Asifani Singaband.
Kukhona abaphila ngamehlo evaliwe, kukhona abaphila abanye basaliwe, kukhona abavakalelwa yintlupheko yabanye benza nemali bona. Asifani singabantu, asifani singabantu.
Masijonge esipilini, masijonge entliziyweni, sizobona ukuthi thina siyafana. Masijonge esipilini, masijonge entliziyweni, sizobona ukuthi thina siyafana.
Asifani singabantu, asibabona abanye abantu, silahlekelwe bubuntu thina. Asifani singabantu, abanye bakhulu kunabanye, abanye banemali, intsakalo ayifani kwabanye. Asifani singabantu, 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 asifani singabantu.
Zin Nougo sera en concert au Périscope le vendredi 21 avril. Rendez-vous sur la page du Périscope pour réserver votre place. J'ai comme Odéon est une émission proposée par Gaël Bossier-Lombard et enregistrée à la Comédie Odéon, à retrouver sur liondemain.fr.